Alors, c'est si vrai que...
Au risque d'être, je dirais, jugé comme je ne sais quoi.
C'est une première raison.
Donc c'est tout à fait important puisque...
Non, c'est pas tellement qu'on les connaisse mal.
Regards croisés. Un débat entre académiciens et personnalités. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Virginia Crespo.
Canal Académie a le plaisir, pour cette nouvelle émission Regards croisés, d'accueillir cet après-midi trois spécialistes de Jean Calvin, trois spécialistes de la Réforme. Pierre Genton, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en lettres et en théologie. Vous avez été professeur émérite de langue et littérature anglaise. Olivier Millet, bonjour.
Bonjour.
Olivier Millet, vous êtes professeur de littérature française à l'Université de Paris 12. Et Bernard Cotteret, bonjour.
Bonjour Virginia.
Vous êtes professeur à l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Vous êtes membre senior de l'Institut universitaire de France. Alors, messieurs, pourquoi Calvin, Jean Calvin, pourquoi considérait-il la messe en quelque sorte comme une idolâtrie?
Oui, il y a des choses dans l'attitude de Jean Calvin que nous avons du mal à reconstituer en notre... temps quand même marqué par l'œcuménisme et en particulier cette espèce d'exécration que Calvin et puis plus généralement les protestants du XVIe siècle peuvent ressentir par rapport au rite romain. Et c'est très très nettement marqué chez Jean Calvin qui déconseille effectivement aux fidèles de trouver le moindre compromis avec cette église romaine. Et il leur dit, écoutez, il faut fuir cette Babylone plutôt que de vous laisser polluer par ces rites impurs. Alors, cette insistance peut nous paraître démesurée à l'heure actuelle. Nous avons du mal, en tout cas, à entrer dans les mentalités du XVIe siècle. Je crois que c'est pour une raison très simple. C'est parce qu'effectivement, la messe est perçue comme le summum de l'imposture, pourrait-on dire, pour employer un vocabulaire qui sera après celui des Lumières. Mais pour en revenir véritablement à un enseignement plus biblique, la messe est une idolâtrie. Et je crois que ce refus de l'idolâtrie, c'est véritablement ce qui va permettre aux protestants, en particulier au protestantisme réformé, de se constituer.
Oui, vous avez parlé des Lumières, c'est un Calvin presque voltairien, dites-vous. Et on trouve donc justement toutes ces réflexions dans son traité des reliques. C'est un ouvrage virulent contre le catholicisme.
Alors, le traité des reliques est un texte tout à fait extraordinaire, évidemment par sa causticité. Et je dirais que c'est un texte qui se prête à un double niveau de lecture au moins. Ce que j'ai essayé de faire dans l'édition que j'en ai donnée pour les éditions de Paris, c'était justement de montrer qu'il y avait un premier niveau de lecture qui est une satire, disons, de ce que l'on trouve dans le catholicisme du temps, en particulier l'usage intempestif des reliques. Alors, avec Olivier Millet, nous avons correspondu au moment où je faisais cette annotation et je disais à Olivier, voyons Olivier, telle relique, où se trouve-t-elle? Ah ben celle-là, me disait Olivier, je ne sais pas du tout où elle était, Calvin en parle, nous ne savons plus où c'est, etc.
Enfin, l'inventaire des reliques.
Il y a un inventaire, une espèce d'aspect cumulatif, et ça fait rire quand on s'aperçoit qu'il y a, je crois, deux ou trois prépuces de l'enfant Jésus. Enfin bon, ça c'est une première veine. Et puis il y a quelque chose de beaucoup plus fondamental dans le traité des reliques, c'est une réflexion en profondeur sur les mécanismes même de l'idolâtrie. Et quand on prend Calvin au sérieux, on s'aperçoit que ces mécanismes de l'idolâtrie ne sont pas le fait uniquement de l'adversaire sur le plan confessionnel ou de l'adversaire sur le plan dogmatique. Ce n'est pas uniquement les catholiques qui sont visés, mais c'est l'idolâtrie qui, de façon inévitable, s'empare de toute religion, y compris la plus pure. Et je crois qu'il y a vraiment chez Calvin une volonté de mettre en garde les fidèles contre la dérive idolâtre en disant personne n'est exempt de cette dérive.
Olivier Millet.
Oui, c'est un point extrêmement important. Calvin n'est pas seulement, lorsqu'il redéfinit l'évangile au sens de la réforme protestante, quelqu'un qui s'oppose à Rome, c'est-à-dire qui conteste une interprétation. C'est quelqu'un qui fondamentalement réfléchit sur les rapports de l'homme et de Dieu et de l'homme, et sur ce que nous appelons aujourd'hui le sacré, en fait, et qui redéfinit tout cela. Comme il ne fait pas un philosophe détaché, désintéressé, mais qu'il le fait en ce qui porte-parole de ce qui lui semble être la révélation divine, il conteste de manière radicale ce avec quoi il n'est pas d'accord, donc la conception traditionnelle, mais en particulier médiévale, du sacré. Et cette contestation, pour lui, porte sur... Mon collègue a parlé d'imposture. C'est-à-dire, l'erreur n'est pas seulement une erreur intellectuelle. L'erreur est une falsification des rapports entre l'homme et Dieu.
C'est plus grave.
C'est beaucoup plus grave. D'où cette véhémence chez lui et ce rejet terrible de la messe qui, en des temps d'œcuménisme, que nous ne pouvons presque plus comprendre. Puisque pour nous, il s'agit, même si on ne sommes pas d'accord avec la messe catholique, d'une sorte d'approximation. Mais pour Calvin, l'approximation par rapport à la vérité n'est pas une approximation. C'est une falsification.
Pierre Genton, il prêche, ce Jean Calvin, le retour à l'Église primitive. Ça
oui,
veut dire quoi ?
Je voudrais d'abord revenir sur la question de l'idolâtrie de la messe. Évidemment, l'écuménisme passe un coup de pinceau sur bien des différences qui restent cependant fondamentales. Pour Calvin, la messe ne peut être qu'une idolâtrie parce que c'est l'impanation de la divinité dans le pain. Oui, un panation dans le pain, bien sûr. Et donc, le pain devient lui-même divin. Et il devient divin sur un geste de consécration du prêtre. Ce qui fait que le prêtre est une espèce de magicien qui transforme le pain en Dieu. Et c'est sur cette notion de prêtrise, ce monopole du sacré, que repose la hiérarchie catholique. Calvin a détruit cela. Et c'est pourquoi il s'est fait un ennemi radical d'une religion qui est fondamentalement opposée à la sienne. Puisque la religion de la messe, c'est adorer Dieu présent physiquement, pas seulement spirituellement, physiquement dans l'hostie et dans le vin. Et pour le Calvin, Dieu est bien présent, mais dans le cœur du croyant. C'est ça la différence. De sorte que, à mes yeux, le protestantisme et le catholicisme sont deux religions radicalement différentes parce qu'elles ont une approche tout à fait divergente du sacré.
Disons deux interprétations différentes du christianisme. Et c'est vrai que c'est le moment de rupture de Calvin parce que Martin Luther, le premier réformateur, avait déjà critiqué la messe, etc., etc. Mais Calvin, lui, tire toutes les conséquences anthropologique en particulier, c'est-à-dire qui concerne l'homme, l'humanité, dans son rapport avec Dieu. Il en tire toutes les conséquences, pas seulement les conséquences théologiques et spirituelles, mais aussi sociales, culturelles, toute cette réflexion donc, sur le sacré, dans les gestes, la liturgie, etc. Les luthériens étaient comment dire, plus prudents, en tout cas sur ces questions-là, n'étaient pas allés peut-être jusqu'au bout de la démarche. Donc Calvin, en déployant la signification des grandes intuitions réformatrices, les conduit à leur terme, ce qui produit une nouvelle, il faut le dire, une reformulation du christianisme ou une nouvelle interprétation du christianisme.
Donc pas d'Eucharistie.
Mais
dans le calvinisme.
Mais une sainte scène.
Mais une sainte scène.
Une communion des fidèles au corps et au pain. Au corps, c'est-à-dire représenté par le pain et au sang représenté par le vin dans la sainte scène ou l'Eucharistie, le mot est employé également. Mais sans cette impanation que signalait M. Genton, c'est-à-dire que le Christ se rend présent par son esprit dans le cœur des fidèles.
Jusqu'où ?
À travers la célébration du rite.
Jusqu'où ira la désacralisation ?
Je crois que la désacralisation ne connaît pas de borne en réalité. Et j'aime beaucoup cette formule qu'a utilisée Pierre Genton. Je crois que le calvinisme, gardons provisoirement cette étiquette, je crois que le calvinisme est aussi une religion du cœur. Et ça, évidemment, c'est une dimension qu'on a complètement passée sous silence. On fait du calvinisme une espèce de rigorisme moral absolu. Et on s'aperçoit, à la lecture de Calvin, de l'existence attestée d'une sensibilité réformée. Il y a une volonté de rendre compte, justement, de toute cette piété. Ça n'est pas du tout une religion sèche, comme on le dit, comme on le dit parfois. Il suffit de lire Calvin. Ce sont des textes d'une admirable beauté. Il y a vraiment, je crois, une esthétique aussi de Calvin, une esthétique littéraire en tout cas, et qu'il ne faut pas du tout perdre de vue cet aspect-là. Alors, cette critique de la messe, je crois effectivement qu'elle est radicale. Je crois qu'elle est fondatrice aussi. Je crois qu'elle est fondatrice intéressant particulier du christianisme réformé français, puisque 1534, cette affaire des placards, cette fameuse affaire des placards, qui a mis le feu aux poudres, dans le fond, c'est la rupture, elle se fait sur la question de la messe, et il y a ceux qui refusent la messe parce qu'ils refusent l'idolâtrie. Alors, il ne s'agit pas pour nous, autour de ce micro, de reprendre ces invectives, mais d'une certaine façon, il y a une véritable révolution intellectuelle qui s'opère à ce moment-là, et je crois que en ce qui nous concerne, autour de ce micro, sans doute tous les quatre, nous sommes un peu les héritiers de cette révolution.
Et c'est ça le retour à l'Église primitive.
Alors, Calvin interprète évidemment cette reformulation du christianisme, il l'interprète également comme un retour, c'est vrai, à l'Église primitive des quatre premiers siècles jusqu'au 5e siècle dans sa perspective. Pourquoi ? Bon, il faut bien voir qu'au 16e siècle, c'est un truisme, une lapalissade. Le XVIIIe siècle, les Lumières n'existent pas encore. Donc, n'est pas disponible la notion de progrès dont nous vivons plus ou moins bien depuis le XVIIIe siècle. Et donc, nous sommes à une époque où la seule manière d'envisager la redécouverte de la vérité est conçue sur un mode de retour à l'origine de la vérité. L'origine de la vérité, c'est évidemment, dans le cas du christianisme, la révélation biblique et en particulier une bonne connaissance au XVIe siècle des textes bibliques dans leur langue d'origine, l'hébreu et le grec. Va avec cela, car ça n'est pas séparable, une bonne connaissance des origines du christianisme et des pères de l'Église, ce qu'on appelle la période des pères de l'Église, dont des grands humanistes au début du siècle, comme Érasme, avaient publié, imprimé, traduit les œuvres complètes. C'était aussi une redécouverte de la Renaissance que celle de l'ensemble des œuvres des pères de l'Église, qui étaient connues au Moyen-Âge, mais pas de cette manière-là. Et donc, pour Calvin, cette nouvelle manière de saisir l'Évangile, et d'être saisi par lui, car c'est une expérience spirituelle, passe par une extrême valorisation des premiers siècles chrétiens. Non pas qu'ils aient une autorité quelconque, pour lui seule la Bible évidemment a une autorité, parce que là la parole de Dieu se donne entièrement de manière suffisante, mais comme première interprétation et premières expériences chrétiennes qui témoignent d'une réception de la vérité fidèle à ce qu'est cette vérité. Donc en absence d'une idéologie du progrès, c'est le retour aux origines qui peut permettre ce que nous avons décrit tout à l'heure.
Alors, de façon pragmatique et j'espère assez claire pour nos auditeurs, tentons de faire un parcours ensemble, tous les quatre, par rapport à ce qui a séparé ces frères, frères catholiques et frères calvinistes, on conserve cette appellation. Alors, par rapport à la notion de Dieu, pour un catholique, Dieu est unique et en trois personnes. Ce qu'on appelle la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Qu'en est-il pour un protestant calviniste, hier et aujourd'hui ?
Bien,
Pierre Genton.
Pour un calviniste, un protestant calviniste, la notion de Trinité est la formulation orthodoxe, parfaitement orthodoxe, de la divinité. Calvin a lutté contre tous les déviationnistes qui mettaient en question le statut de cette Trinité. Bien entendu, certains furent plus célèbres que d'autres, mais il y avait tout un courant rationaliste qui mettait en question la Trinité. Était-ce trois dieux, un trithéisme, ou est-ce qu'il y en avait un plus deux ? Tout ça a été débattu, mais Calvin était sur ce point très orthodoxe. Il était le plus catholique des théologiens protestants sur ce point-là. Pourquoi ? Parce qu'il avait reçu de la tradition de l'Église médiévale une approche de la théologie qui était la suivante. On expliquait d'abord les dix commandements, on étudiait le Notre Père, et ensuite le credo. Et ce credo, eh bien, ce credo était trinitaire. Cela n'a pas toujours été le cas dans l'histoire de l'Église. Il y a eu des débats au second, dès le second, troisième, quatrième siècle sur la Trinité. Mais pour Calvin, il n'y a plus de problème. C'est la Trinité de l'Église médiévale.
C'est sur ce thème de la Trinité, je crois, que Michel Servet a eu les plus fortes oppositions.
Il l'a payé de sa vie.
Il l'a payé de sa vie par rapport rapport à Calvin. Il remettait en question la Trinité.
La question de la Trinité, évidemment, est débattue au XVIe siècle. Le cas de Servet est un cas très intéressant, comme l'a très bien montré notre ami Vincent Schmitt de Genève. Le cas de Servet est particulièrement intéressant parce que Calvin, lorsqu'il voit arriver Servet, n'ignore pas que Servet, à l'origine, est espagnol. Et donc, Servet vient d'un péninsule ibérique où, évidemment, il y a d'autres conceptions de Dieu qui ont eu cours, aussi bien chez les Arabes musulmans que chez les Juifs. Alors, est-ce que cette contestation de la Trinité, du dogme trinitaire chez Servet est à mettre au compte d'une influence ibérique ou de l'Esprit Nouveau, parce qu'il y a aussi un développement du rationalisme. La question, comme le disait Pierre Genton, de comment est-ce qu'on peut avoir trois en un, en trois, etc. Il y a aussi, évidemment, un obstacle qui est un obstacle rationaliste. Moi, ce qui m'avait beaucoup intéressé, je voudrais parler ici de quelqu'un que nous avons connu, c'est Richard Stauffer, qui avait fait un très très bel article dans le bulletin de la Société de l'Histoire du Protestantisme français, qui portait justement sur l'attitude de Calvin par rapport à Servet. Et Richard Stauffer rappelait très justement que l'orthodoxie trinitaire de Calvin avait été remise en cause par un certain nombre de ses détracteurs. Ce qui veut dire que Calvin, à la limite, en rajoute un peu sur la question de la Trinité, parce qu'il sait très bien qu'on risque de l'attaquer sur ce plan-là. Et je crois que ça explique un peu le raidissement de Calvin. D'ailleurs, très souvent, il y a chez Calvin, en particulier sur la question de la prédestination, il y a des formes de raidissement qui viennent effectivement d'attaques qu'il a pu ressentir.
Il me semble qu'il y a un dernier point important, c'est que la Trinité, depuis les 4e, 5e siècles, c'est le dogme des dogmes chrétiens. C'est la, non seulement du point de vue théologique et religieux, mais c'est la clé de voûte de tout le système chrétien, de la chrétienté qui s'est installée quand l'Empire romain s'est converti au christianisme. La Trinité, il ne faut pas l'oublier, c'est dans le droit romain, le code de Justinien, c'est-à-dire le droit romain reformulé à la fin de l'Empire romain. Et donc pour les hommes comme Calvin, qui est aussi un homme du Moyen-Âge, c'est un homme de la Renaissance, mais c'est aussi un homme du Moyen-Âge, c'est la clé de voûte de l'ordre social, politique, je dirais de sa conception du monde. Voilà. Donc, pour lui, toucher à cela, c'était remettre en cause quelque chose qui est attesté, selon lui, dans l'Écriture, qui repose sur l'Écriture, inutilement et de manière à détruire l'ordre social. Alors, Calvin, qui est un révolutionnaire sur le plan spirituel, est un homme d'ordre.
Oui, il a beaucoup de mal à défendre la Trinité lui-même. Il est très embarrassé parce que le support biblique de la Trinité... Calvin se fait battre par la Bible, pour ainsi dire, parce qu'il a beaucoup de mal à trouver des arguments bibliques. Alors que ces arguments fusent de tous côtés dans l'ère de la réforme radicale, surtout dans la bouche des Italiens, des rationalistes italiens, même Castiglione d'ailleurs, met en cause la Trinité parce qu'elle manque de support biblique.
La révélation. Passons à la révélation. Pour un catholique, elle est contenue dans la Bible et dans la tradition de l'Église. Pour un protestant calviniste, qu'en est-il ? Bernard Cotteret ?
Il est évident que pour un protestant, d'ailleurs pas pour un protestant calviniste, pour tous les protestants du monde et de la terre depuis le XVIe siècle, cette question de la tradition a été la tradition avec un T majuscule, je dis bien, la tradition avec un T majuscule a été récusée. Je veux dire que la tradition, qui est l'un des arguments utilisés par l'Église catholique au XVIe siècle, justement face aux protestants, pour asseoir sa légitimité, ne tient pas face à des gens qui veulent asseoir leur légitimité précisément sur le texte de la Bible et sur la Bible seule. Ceci dit, cela donne lieu à des débats qui sont assez captivant au XVIe siècle en Angleterre. Je pense à Thomas More, qui est un défenseur de la tradition, en particulier contre Tyndale, qui est un des premiers traducteurs de la Bible en Angleterre. Et Tyndale va avoir le point de vue protestant à ce moment-là sur la tradition, va récuser la tradition. Et Thomas More va lui répondre, et je trouve que c'est quand même très intéressant, en disant « Oui, mais il y a peut-être une partie de l'enseignement qui n'a pas été consignée dans les textes. » Donc je crois qu'il y a un débat quand même qui est sur le plan de l'histoire intellectuelle est absolument extraordinaire autour de cette histoire de tradition que l'on a à propos du christianisme et que l'on peut retrouver à propos aussi des enseignements philosophiques. Est-ce que tout l'enseignement de Platon est contenu dans les œuvres publiées de Platon ou est-ce qu'il n'y a pas une partie des enseignements de Platon qui s'est transmis par ses disciples de bouche à oreille? Est-ce qu'il n'y a pas à ce moment-là une légitimité de l'Église qui reposerait effectivement sur cette transmission qui, à la limite, n'a pas laissé de traces? Donc il y a ce grand débat sur la succession apostolique qui, à mon avis, est quand même aussi un débat d'histoire intellectuelle.
Et aujourd'hui, en 2009 ?
La question ne se pose pas exactement dans les mêmes termes. D'abord parce qu'il y a une différence culturelle. Je voudrais ajouter un autre point de vue. Nous sommes à la Renaissance, à l'époque de l'humanisme. C'est-à-dire à une époque où la culture occidentale redécouvre la totalité de ses sources intellectuelles et spirituelles, à travers la connaissance des langues, de l'hébreu, du grec, de l'arabe aussi, et des langues sémitiques plus généralement. Et donc, par exemple, chez certains humanistes, il y a le pari qu'une vérité a été transmise depuis Adam, et qui passe aussi bien par la révélation biblique attestée dans la Bible que par certaines traditions païennes, notamment philosophiques ou autres. Et donc Calvin intervient dans ce débat. Le recentrage total sur la Bible, sur la seule Bible, comme seule source normative de la foi et de l'Église, est aussi un geste décisif vis-à-vis de cette culture humaniste qui a à sa disposition, ou l'Occident a à sa disposition, pensez à ce que cela représente, la totalité des philosophies antiques, la totalité des spiritualités antiques, y compris d'ailleurs les païennes, etc., etc. C'est dans ce contexte-là que ce geste a un sens. Aujourd'hui, nous sommes dans une culture un peu différente, où nous avons davantage conscience de l'histoire, je dirais presque des vérités éprouvées ou expérimentées ou découvertes par l'homme, et où la question reste posée des rapports entre une révélation religieuse et les autres formes de sagesse, par exemple. Mais nous ne sommes plus dans le même contexte culturel.
Jésus-Christ, fils de Dieu, pour les catholiques, il se fait homme, incarnation, et il est mort pour sauver les hommes. Rédemption.
Alors pour Calvin, évidemment, c'est le dogme central, évidemment, avec la Trinité, c'est le dogme de la rédemption par la personne de Jésus-Christ. Mais simplement, cette affirmation a une conséquence qui dérive du premier point dont nous avons discuté tout à l'heure, c'est que s'il y a un rédempteur, comme le dit en particulier le texte du Nouveau Testament, la totalité de la Bible si on la lit de façon chrétienne, si Jésus-Christ est ce rédempteur, il ne peut pas y avoir d'autre rédempteur, ni donc de, je dirais, d'aide, de seconde, de co-rédempteur, et ce type-là, disons, de médiation entre l'homme et la personne et la fonction divine de la personne humaine de Jésus-Christ.
Pierre Genton.
À partir du moment où Jésus-Christ est l'unique sauveur, il n'y a pas besoin d'autre, et donc tous les médiateurs autour de lui sont éliminés, c'est ce que vous venez de dire admirablement. Oui.
Nous abordons le lourd chapitre de la double prédestination. Le salut éternel de chaque homme, pour les catholiques, il est obtenu par la foi et par les œuvres. Alors, pour un protestant calviniste, il est obtenu par la foi seule. Doctrine de l'élection.
Tout à fait.
Moi, je crois que ce problème de cette appellation double prédestination est un peu forcé. En réalité, il n'y en a qu'une. Et Calvin l'explique bien dans une de ses lettres. Il dit, au fond, il y a des gens qui croient et d'autres qui ne croient pas. Pourquoi est-ce que ceux qui ne croient pas ne croient pas? Et ceux qui croient, c'est donc parce que Dieu a choisi, a voulu qu'ils croient. Étant donné que Dieu choisit, fait tout ce qu'il veut, y compris les moins, et dirige nos vies de la façon la plus minutieuse, dans le bien ou dans le mal, dans l'épreuve ou dans la satisfaction, à partir du moment où Dieu Tout-Puissant contrôle notre vie, il contrôle aussi notre vie spirituelle. Et pour ça, il donne la foi à certains et à d'autres, il ne la donne pas. Ça ne veut pas dire qu'il les condamne à l'enfer. Il ne leur donne simplement pas la foi salvatrice. Qu'advient-il de la massa perdita, de la masse qui n'est pas choisie? À ça, il ne se prononce pas, Calvin. Il ne dit pas c'est les flammes de l'enfer, nulle part. Il dit simplement, ils ne sont pas élus.
C'est un constat qui provient du côté incontournable de la présence de Dieu et de la puissance de Dieu.
Absolument. Si on veut se débarrasser de la prédestination, il faut se débarrasser de la moitié de la Bible, parce que les arguments de Calvin sont quand même des arguments fortement étayés.
Il faut peut-être mettre deux points là au clair, je crois.
Olivier Millet.
Oui. Concernant le statut de la foi, rappelez à nos auditeurs que la foi n'est pas une œuvre. Ce n'est pas quelque chose qui peut être mis sur mon compte si je suis croyant, qui serait mes opinions ou qui serait mon effort, ma capacité de croire. C'est pas, la foi, selon Calvin, et ça c'est assez traditionnel, je crois, mais enfin il insiste là-dessus, est un don divin. Et le deuxième point que je voudrais... Donc, fait partie de ce processus de l'élection des fidèles et de leur salut. Ce n'est pas une œuvre humaine qui pourrait valoir un mérite. Et le deuxième point sur lequel il faut insister, c'est que pour Calvin, et ça je crois que ça, on est au cœur là, de la pensée religieuse de Calvin, c'est que pour Calvin se représente le monde et l'histoire comme une sorte de vaste, d'immense domaine, c'est la création, dans lequel Dieu va chercher des gens qu'il va sauver. Et de ces gens, il les prend, quels qu'ils soient, il les prend à un moment dans leur vie, quel qu'il soit aussi, d'ailleurs, au début ou à la fin ou au milieu, et ces gens, il ne les lâchera plus. Et il va les transformer. On a parlé du rôle du Saint-Esprit tout à l'heure pour la communion eucharistique chez Calvin. Il va les transformer, se saisir d'eux. Et la foi, c'est simplement une des étapes ou un des aspects de cette manière dont Dieu se saisit de certains êtres humains pour les conduire. Et il les conduit, selon Calvin, jusqu'au salut. La grâce, il n'y a pas de retour chez Calvin de la grâce divine. Il n'y a pas de retour. Et même si elle est au dernier moment, elle était toujours et déjà là, et elle finit par se saisir de celui qu'elle devait saisir. Alors c'est dans cette perspective, évidemment, spirituelle, qu'il faut comprendre ce dogme de la double prédestination qui n'a plus de sens aujourd'hui, surtout si on le sépare de ce contexte spirituel.
La liberté de l'homme.
Oui, je crois qu'il y a une grande incompréhension de ce qu'on entend par prédestination chez Calvin. Moi, ce que je regrette le plus, c'est qu'on identifie calvinisme et prédestination. Je veux dire que ça n'est qu'un des aspects de la théologie de Calvin. Et très souvent, le terme calviniste, en particulier dans le monde anglophone, est presque devenu équivalent de prédestination ou double prédestination. Bon, ça, je crois que c'est un abus de langage. Évidemment, toute la théologie de Calvin ne se réduit pas à cette proposition. Ceci dit, je crois qu'elle a une valeur absolument centrale, la prédestination chez Calvin. Et ce que je voudrais dire ici, qui est évidemment peut-être à heurter certaines sensibilités, la prédestination n'étant pas très à la mode à l'heure actuelle, on peut bien le dire, c'est que cette prédestination chez Calvin, en tout cas, la formule qu'il en donne, la formule qui est une formule vécue aussi par lui-même, est profondément libératrice. Parce que le dogme de la prédestination signifie, par rapport à l'Église, par rapport aux Églises, ça n'est pas vous qui détenait le salut. Ce salut, il nous est donné par grâce. Il ne nous est donné que par grâce et d'une certaine façon, vous n'y pouvez rien. Et quand vous êtes une minorité, comme le sont les réformés, persécutés dans la France du XVIe siècle, dans l'Europe du XVIe siècle, c'est absolument extraordinaire.
C'est une doctrine de combat.
Nous n'avons pas de compte à vous rendre. Et ça, je crois qu'il faut reprendre la prédestination en ce sens-là. Se souvenir aussi que la prédestination n'est pas uniquement protestante, ni même uniquement calviniste, qu'il y a des débats sur la prédestination qui agitent aussi le monde catholique au XVIIe siècle, avec ce qu'on a appelé les jansénistes, avec des gens quand même comme Pascal, qui n'était pas non plus un imbécile, et qui était également un grand écrivain. Donc la prédestination a quand même permis un certain développement de l'écriture et de la pensée humaine, et que c'est véritablement une question centrale, c'est de savoir qui nous sauve, par qui sommes-nous sauvés, sommes-nous véritablement sauvés. Je crois que c'est au cœur même de l'expérience chrétienne à ce moment-là, et évitons effectivement un certain nombre de raccourcis un peu commodes sur cette espèce de religion du loup-garou. La prédestination chez Calvin, ça n'est pas le loup-garou.
Et il ne peut y avoir de certitude psychologique, celle certitude que Calvin a cherchée au fond toute sa vie, depuis le commencement jusqu'à la fin. Mais il ne peut pas y avoir de certitude du salut si on ne repose pas cette certitude sur la prédestination. Dieu l'a voulu, il en sera ainsi. On pourrait poser une autre question au fond. Qu'est-ce que c'est que la foi exactement chez Calvin ? Mais ce n'est peut-être pas le sujet de...
Si, on peut poser cette question qui est lourde de réponse.
Oui, elle est lourde de réponse parce que, pour moi, c'est ce qui reste de Calvin. Parce que je crois que ce qu'il a vraiment touché au cœur de ce qu'est la foi. celui qui a la foi, c'est une femme ou un homme qui fait quoi? Et c'est quelqu'un qui trouve toujours un sens ultime à sa vie. Ce sont les sermons sur Job de Calvin, Coligny préférait d'ailleurs, dans lequel il montre que, quelle que soit la situation, il faut croire que ce Dieu qui paraît hostile est quand même un Dieu d'amour. Et que le Dieu d'amour l'emportera sur le Dieu de courroux. Donc, Calvin a vécu ça, cette expérience. Parce que Calvin, dans les 10 dernières années de sa vie, il a vécu comme un crucifié dans la chair.
Oui, c'est un homme très malade, qui cumulait toutes les maladies possibles et imaginables.
Et qui est mort épuisé, et qui écrivait, qui a fait un immense travail depuis son lit. Mais il avait donc, Calvin, une épreuve constante, quotidienne de la foi. Et malgré ça, il n'a jamais douté qu'il était entre les mains de Dieu.
Un autre aspect concernant la prédestination, mais aussi cette affaire de foi. Chez Calvin, la foi, c'est quelque chose qui vous saisit, en fait. C'est la manière dont on comprend qu'on est saisi par Dieu, dont on le formule à son tour. Ça ouvre tout un chemin de transformation individuelle, mais aussi sociale, il faut le dire. C'est un des grands traits du calvinisme, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais pour revenir à la prédestination, pour Calvin, aucun être humain et aucun fidèle ne sait qui, en dehors de lui, car il y a une certitude du salut chez Calvin, mais en dehors de lui, ne peut dire à vue humaine qui est sauvé ou qui ne le serait pas. Ça, Calvin remet entièrement à la providence divine et à la bonté divine le soin de juger les uns et les autres, mais l'homme en est totalement incapable, et Calvin ne se prononcera jamais, ni lui, ni ses fidèles au XVIe ou au XVIIe siècle, sur cette question-là. La vérité peut être désignée, mais l'homme sauvé ou l'homme perdu ne peut pas être isolé ou marqué. Désigné. Voilà.
Oui, moi, c'est à dessein que j'ai parlé de Pascal précédemment, parce que je suis évidemment également un lecteur de Pascal, je crois, comme nous tous aussi autour de ce micro, et en particulier le Pascal, évidemment, des pensées. Et ce que je trouve d'une certaine façon paradoxale, c'est que Pascal occupe effectivement la position qui lui revient dans la littérature française. Je crois que tout le monde sait maintenant que Pascal est un des grands écrivains de la langue française. Alors que ce rôle, on l'a un petit peu dénié à Calvin pour des raisons que je trouve assez contestables. Et Calvin n'a pas eu, à mon avis, la place qui lui revenait dans la littérature française, même s'il y a de bonnes études littéraires de Calvin, je me tourne évidemment.
Oui, nous en reparlerons avec Olivier Millet.
Vers mon voisin. Mais je crois que si ce 500e anniversaire de Calvin pouvait avoir un effet bénéfique, je souhaiterais que ce soit celui-là. Je souhaiterais que beaucoup de gens en France s'aperçoivent de la centralité de Calvin dans notre culture française, dans notre littérature française. Que Calvin, ça n'est pas une lecture uniquement pour les protestants, encore moins pour les protestants calvinistes, encore que je leur recommande de lire un peu plus Calvin, parce qu'écoutez, beaucoup d'entre eux n'ont jamais lu un seul texte de Calvin, j'ai le regret de m'en apercevoir quotidiennement, puisque beaucoup de manifestations, j'ai jamais lu Calvin, mais écoutez, commencez à lire Calvin. Il y a des tas de textes de Calvin, il y a des textes remarquables, un peu plus longs, un peu plus diffus, oui, comme l'institution de la religion chrétienne qu'il faut absolument avoir lu, et puis alors il y a tous ces petits textes pamphlets qui sont extraordinairement
drôles. Le philosophe Olivier Abel souhaitait que les textes de Calvin apparaissent dans les universités.
Il y a un rapport entre cette dimension-là de l'œuvre de Calvin et celle dont nous parlions précédemment, c'est-à-dire des grandes idées spirituelles de son œuvre. C'est que Calvin a formulé, exprimé ses grandes idées spirituelles, non pas sous la forme de thèses, de petites propositions en latin, comme on faisait dans l'université au Moyen-Âge, ou sous la forme d'un traité extrêmement technique, etc. Mais il a, pour formuler ses grandes institutions spirituelles, il a créé un univers de langage, en fait, nouveau, complètement nouveau, et qui correspond très exactement aux grandes tendances de la prose française moderne, c'est-à-dire de l'organisation de son vocabulaire, de sa syntaxe, de la formulation des idées claires et cohérentes dans le paragraphe, grave dans la page et dans l'ensemble de l'œuvre. Voilà, il a fallu qu'il mobilise tous ces moyens-là pour rendre accessible, c'est ça son génie aussi, ces grandes intuitions spirituelles qui jusque-là, il faut bien le dire, étaient plutôt réservées aux spécialistes de la théologie, de la mystique, de l'exégèse, qui n'atteignaient le peuple qu'à travers des formes de vulgarisation extrêmement différentes, mais qui ne mettaient pas en cause la langue française et ses capacités.
Messieurs, revenons à la Vierge et aux saints. Pour les catholiques, ce sont des intercesseurs, et je crois ne pas me tromper en disant qu'il n'en est rien pour un protestant calviniste.
A priori, je crois que là, nous sommes dans ce qui est de l'ordre de l'évidence. Ce que l'on ne voit pas suffisamment, parce qu'on interprète cela négativement. On dit le protestant, c'est celui qui ne croit pas et qui ne croit pas.
Ni en la Vierge,
et voilà, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Fondamentalement, ce qu'il faut rappeler, c'est cette centralité du Christ. Et donc, tout cela procède de cette centralité du Christ. C'est-à-dire que le Golgotha n'est pas répétable. Et donc, on est face à un catholicisme du XVIe siècle qui, lui, est en permanence dans la répétition. C'est une religion de la répétition. Je ne dis pas répétition nécessairement mécanique, mais c'est une religion de la réitération. Et qu'est-ce que la messe, sinon la réitération, justement, du sacrifice du Christ. Et le protestantisme, tous les protestantismes confondus d'ailleurs, rompent avec cette idée de réitération. On ne peut pas réitérer le sacrifice unique de Jésus-Christ. C'est la théologie de l'Épître aux Hébreux, évidemment, qui est reprise ici. Et donc, je crois qu'au lieu de dire négativement les protestants ne croient pas, on ferait mieux de parler un peu de ce qu'ils croient.
Les sacrements, on en parlait tout à l'heure à travers la messe. Alors, pour un catholique, les rites porteurs de la grâce de Dieu sont au nombre de 7, le baptême, pénitence, confirmation, ordre, mariage, extrême-onction, eucharistie avec présence réelle et transsubstantiation. Alors, pour un protestant calviniste, je crois que ces signes sont au nombre de 3. Le baptême, la pénitence, non ?
Oui, parfois chez Luther.
Parfois chez Luther. Ah oui, c'est chez les luthériens.
Mais plus pas chez Calvin, Luther a hésité. La question n'est pas d'ailleurs de savoir si c'est 2, 3 ou 1 ou 4. La question, parce que les critères, ce sont les critères évidemment qui comptent, c'est-à-dire le sens de ces chiffres.
Signe de la grâce.
Voilà. C'est, en raison de ce que nous avons dit sur l'autorité unique de l'Écriture sainte et du centrement absolu sur la personne de Jésus-Christ, en fait, de ce qu'il y a de non répétable aussi dans cette personne, mais qui est tout de même fondatrice du salut, qui est le centre de tout. Les réformateurs retiennent les gestes essentiels de Jésus qui sont où il dit à ses disciples « faites ceci ». Donc des gestes considérés comme fondateurs. C'est donc le baptême et la Sainte Cène. Les autres sacrements ne sont pas, ça ne veut pas dire qu'ils sont absents, mais ils ne sont pas interprétés comme des sacrements. Donc c'est la définition du mot sacrement qui est en cause. C'est qu'est-ce que le Christ a voulu que la communauté fasse ? C'est une question de communauté aussi. Que la communauté fasse ensemble pour se référer aux ordres du Christ, lorsqu'il pose ses gestes fondateurs. Voilà, c'est une question de terminologie.
Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Olivier Millet pour rappeler à nos auditeurs le caractère très communautaire du sacrement protestant. Je crois que c'est une chose que l'on perd un peu de vue très souvent et qui frappe en tout cas ceux qui viennent dans les temples protestants. C'est d'apercevoir par exemple le baptême se déroule normalement le dimanche lors du culte. Il n'y a pas de baptême privé, enfin me semble-t-il. Je ne parle pas pour l'ensemble du protestantisme, en tout cas dans le protestantisme réformé. La communion de la même façon est un geste éminemment communautaire. Il n'y a pas de messe basse, si je peux dire.
Sauf cas très particuliers, des malades.
Oui, bon. On pourrait trouver... Bon. Mais il y a vraiment, je crois, une insistance communautaire. Tout ça pour détruire une idée fausse aussi, où on crédite toujours le protestantisme, je ne sais pas quel individualisme sournois. Je me souviens d'une de mes collègues qui était convaincue que puisque j'étais protestant, j'étais un individualiste foncier. Je crois que ça, ce sont vraiment des lieux communs auxquels il faut renoncer.
Parmi les sacrements, les deux sacrements fondamentaux chez Calvin, je voudrais insister particulièrement sur la Sainte Cène. Car cette Sainte Cène, sur laquelle il insiste beaucoup plus que sur le baptême d'ailleurs, sur le baptême tout le monde est d'accord. Catholiques et protestants à l'époque là se reconnaissent mutuellement leur sacrement du baptême. Mais sur la Sainte Cène, elle joue un rôle particulièrement fort qui a des conséquences sur la morale et ce qu'on a appelé le rigorisme de Calvin. Dans la Sainte Cène, il y a bien une présence réelle, même si cette présence n'est pas physique. Mais elle est réelle quand même, elle est dans l'esprit, c'est le Saint-Esprit par lequel le croyant entre en contact avec son Sauveur. Mais si la scène est ainsi sacrée, la conséquence est qu'on ne peut pas l'approcher avec des mains complètement sales. Et donc, ne sont admis à la scène que les personnes qui se reconnaissent d'abord pécheurs et qui sont repentantes. Mais les débauchés avec qui Calvin avait fort à faire, les débauchés, eux, ils voulaient la Sainte Cène, libre service. Et ils n'en voulaient pas, Calvin, de ça. Il fallait qu'on se soit efforcé de rendre sa conduite irréprochable parce qu'on n'approche pas le don de Dieu n'importe comment, ni avec n'importe quel langage d'ailleurs. Et concernant le langage de Calvin, le langage biblique, ça aussi c'est très important. On ne parle pas de Dieu n'importe comment, mais on ne le touche pas, on ne l'aborde pas n'importe comment. Donc la Sainte Cène, pour lui, est un moment vraiment sacré dans lequel la communauté participe en commun à un sacré. Avec la conséquence qu'avant d'entrer et en sortant, il faut que la communauté soit droite et continue à faire honneur à Dieu. Voilà sur quoi, au fond, la morale de Calvin, elle se base sur le sacré.
Là, c'est un point extrêmement important et sur lequel j'insiste encore, la communauté qui se rassemble autour de la parole divine et qui instaure le sacré, qui est l'Eucharistie alors, et qui ensuite va se livrer à ses activités ordinaires à partir de là. Les réformés, c'est une différence avec les luthériens, sans doute, sans doute. Partout dans le monde, et au cours des siècles, et quelles que soient les circonstances culturelles, sociales, politiques, ont toujours cultivé, ça se voit aujourd'hui dans les pays anglo-saxons, qui sont dans la mesure où ils sont de tradition réformée, disons, en un sens extrêmement vif du sens de la communauté, tout simplement. C'est-à-dire de la responsabilité que l'ensemble du groupe a de chacun et que chacun a pour l'ensemble du groupe. Bon, chaque fois des petites communautés, puisqu'au départ, finalement, le calvinisme, c'est une spiritualité de réfugiés, d'exilés et de gens qui n'avaient pas forcément d'existence visible dans ces grands ensembles, ces grandes monarchies, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental du point de vue culturel et social dans les pays, je dirais, de culture réformée.
Et c'est cette assemblée qui forme l'Ecclésia.
Tout à fait.
Seulement l'Ecclésia.
Où l'on se soucie de l'autre, bien sûr, avec ce qui peut y avoir d'absolument insupportable, de son salut, etc. Mais où l'on se soucie toujours de l'autre. Allez aujourd'hui en Afrique du Sud et vous verrez comment fonctionne la société sud-africaine avec toutes les difficultés qu'elle rencontre. Mais elle est fondée encore aujourd'hui sur ce souci de l'autre.
Alors justement, par rapport à cette église, pour l'un catholique, le clergé est formé de prêtres, papes, évêques, curés, revêtus d'un caractère sacré par le sacrement de l'ordre. Et bien évidemment, chez le protestant, calviniste et luthérien et autres, nous retrouverons la notion de ce sacerdoce universel que vous allez peut-être nous expliquer. Pierre Genton.
Eh bien, pour le calviniste comme pour le luthérien, le sacerdoce universel, c'est l'habilitation donnée à chaque croyant individuellement d'approcher le sacré. Alors que en régime catholique, le sacré ne peut être qu'approché à travers un médiateur qui est le prêtre. Le prêtre est le seul habilité. Il a lui seul a le pouvoir de consacrer les espèces, c'est-à-dire de faire descendre Dieu dans le pain. En régime calviniste, tout fidèle a ce pouvoir. Il existe bien une hiérarchie, une organisation, mais si vous voulez, cela tient plutôt du règlement intérieur de l'Église que d'une structure intemporelle comme dans le catholicisme.
Je dirais même que dans le catholicisme, et je crois que c'est une essence, d'ailleurs très noble et admirable, mais contestée par Calvin, du catholicisme, la vérité a besoin d'une hiérarchie pour atteindre les individus. Alors que je dirais que dans la version protestante, parce que c'est commun aux luthériens, mais les réformés ont poussé ça jusqu'au bout, évidemment. L'organisation, même si elle est hiérarchique, elle ne l'est pas toujours, mais même si elle est hiérarchique, n'est que fonctionnelle. Mais le rapport entre l'individu et Dieu peut parfaitement ne pas passer par cette organisation fonctionnelle qui est par ailleurs nécessaire et souhaitable.
Oui, le mot important est effectivement le mot « fonction ». Ça montre là encore la modernité, je crois, de la pensée de Calvin et de la pensée réformée de façon beaucoup plus générale. Dans un certain catholicisme, on a une conception en termes de pouvoir. Il y a un pouvoir du prêtre, pouvoir d'ailleurs qu'il ne perd pas, même s'il est délié d'un certain nombre d'années pour toutes sortes de raisons. Mais vous savez qu'un évêque schismatique reste un évêque qui peut continuer à ordonner, etc. Alors que dans le protestantisme, et singulièrement dans le protestantisme réformé, on ne pense pas en termes de pouvoir propre à l'individu, mais on pense en termes de fonction. Ce qui veut dire que le sacerdoce universel n'empêche pas Calvin et puis les autres, Bucer, etc., avant lui, d'avoir un certain nombre de fonctions distinctes à l'intérieur de l'organisation ecclésiastique.
Donc il y a des ministères,
il reste des ministères.
Des docteurs, etc.
Il reste des ministères.
Mais ce ne sont que des ministères, ce n'est pas une hiérarchie par laquelle la vérité passerait.
C'est un caractère provisoire.
Et alors, je crois qu'il faudrait souligner l'aspect politique de cette fonction, n'est-ce pas ? Parce que dans une assemblée, le pasteur est un parmi les autres. Et donc, les fonctions ne sont même pas hiérarchisées, mais elles sont distinctes. Elles sont distinguées. Il y a les diacres qui s'occupent des pauvres, qui s'occupent des finances, vous voyez ça. Mais il y a une parfaite égalité et le pasteur est entouré de conseillers. Qui d'ailleurs à Genève, du temps de Calvin, la moitié de ses conseillers étaient désignés par le gouvernement. Bon, les autres étaient désignés un petit peu parmi les notables. Hein. Il n'y avait pas à cette époque un règlement de constitution de ce qu'on appelait le consistoire. Mais ce qui est intéressant, c'est que autour du pasteur, plusieurs prenaient la parole. Et que ce n'est pas le pasteur qui décidait, c'était le consistoire. C'était donc un régime d'assemblée. Et il y a eu, un peu plus tard, 20, même pas 20 ans plus tard, en France, un nommé Morelli qui établissait vraiment le régime d'assemblée à travers toutes les...
C'est cette nouvelle conception sociale dont vous nous parliez aussi, tout à l'heure,
oui,
Olivier Millier.
Ça correspond dans l'organisation de l'Église elle-même, et pas seulement de l'Église, ça correspond aussi dans le fond, sans doute à la pensée politique de Calvin, bien qu'il ne s'exprime pas sur ses choix politiques, est-ce qu'il est pour la monarchie, est-ce qu'il pour la République, ça ne l'intéresse pas. Mais pour l'Église, et sans doute pour les autres domaines, ce qui est important pour lui, c'est qu'il n'y ait pas un individu qui puisse dominer. Donc, tout chez Calvin, car il a tout réorganisé, il faut bien le dire, hein, il a prévu que tout puisse être organisé, plutôt, tout est fait pour qu'aucun individu, ni aussi aucune Église, par rapport à d'autres, ne puisse dominer les autres. Donc, on retrouve cet aspect fonctionnel de la conception que Calvin se fait non seulement de la vérité de la vie chrétienne, mais même de l'organisation sociale et politique.
Bernard Cottret.
Le terme politique qu'utilise Calvin, et qui a une postérité extraordinaire, en particulier dans le monde anglophone, pour désigner ce détenteur de l'autorité politique qui existe après tout, c'est le terme magistrat. Et le terme magistrat est très intéressant, parce que lorsque Calvin parle de cette autorité politique, dont il reconnaît parfaitement la légitimité, il la désigne sous le nom de magistrat. Or, le magistrat, comme chacun sait, peut être un souverain, un roi, peut être une assemblée, peut être, j'allais dire, en poussant les choses jusqu'au présent, un président de la République. Il y a effectivement une instance politique légitime qui doit gouverner, mais là encore, il faut bien penser en termes de fonction et non pas une espèce de pouvoir abstrait. Et ça, je crois que c'est quand même ce qui est très intéressant parce que c'est l'un des apports du protestantisme réformé à la modernité politique. Savoir que de toute façon, tous autant que nous sommes, nous allons occuper comme ça un certain nombre de fonctions. Mais rien n'est plus exaspérant pour un protestant que de voir des gens se confondre avec leurs fonctions. Une fois que vous êtes parti, votre fonction va passer à quelqu'un d'autre, de façon très légitime. Ce n'est pas une espèce de pouvoir que vous gardez en propre.
Messieurs, pour terminer, une petite réflexion en forme de clin d'œil. Que penserait le grand réformateur de ce jubilé au cours duquel éditions, manifestations, événements vont se bousculer, vont communiquer
On peut dire qu'il serait consterné à certains égards, mais bon, donc nous lui sommes infidèles.
On sera quand même loin de l'idolatrie.
Concerné en ce sens que c'est une anecdote, mais il a voulu être enterré à Genève, donc c'est une volonté du mourant, en fait. De manière, comment dire, anonyme. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, il a été mis dans un emplacement qui est resté inconnu. Et d'ailleurs, les foules ne sont pas venues le jour de sa mort sur cet emplacement lui-même. Et alors, on peut l'interpréter de manière, c'était pour être sûr qu'il n'y aurait pas de vénération après sa mort du lieu.
C'était une volonté personnelle.
Ah, tout à fait. Et il avait trouvé un commentaire d'un père de l'Église, voilà les origines du christianisme, un père de l'Église, Saint Jean Chrysostome, qui signalait que dans l'Écriture sainte, en général, on ignore où sont enterrés les prophètes et les apôtres. Et il avait souligné ce passage chez ce père de l'Église, il se l'appliquait à lui-même. On peut y voir aussi évidemment un signe d'orgueil. Est-ce qu'il s'assimile à un prophète ? Oui, en ce sens que c'est vrai qu'il a toujours considéré que les prophètes dans la Bible n'étaient que les porte-paroles de la parole divine et ne faisaient rien d'autre que d'expliquer la loi divine.
Là aussi, désacralisation.
Désacralisation complète. Et Calvin lui dit, mais moi aussi, j'explique maintenant les prophètes et les apôtres parce que c'est la tâche en régime chrétien d'expliquer à son tour ce qu'ont expliqué les prophètes et les apôtres.
Il l'a fait, et voilà. Tellement bien fait. Merci messieurs d'avoir partagé ce temps de réflexion devant le micro de Canal Académie. Merci à tous les trois.